c'est toujours un moment de très grande émotion pour moi. Et je pense pour vous aussi que de faire ce que nous avons fait ce matin, et c'est-à-dire de partager ce pain et ce vin ensemble en mémoire de notre Seigneur et de notre Sauveur. Bien sûr que ça va plus loin que ça. Que la mémoire, c'est, disons, la première chose qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait la mémoire à la mémoire de notre Seigneur et Sauveur? Pour la bonne raison que dans la Pâque, il y avait quatre parties. Et la troisième partie de ces quatre était au fond une cérémonie de souvenir pour le départ ou les défunts, n'est-ce pas, du peuple, de ceux qui étaient morts. Et on se rappelait à ce moment-là de ceux qui avaient participé à cette Pâque, en particulier les premiers Israélites, n'est-ce pas, qui avaient pris la Pâque et qui avaient quitté l'Égypte, qui eux avaient vraiment fait le grand pas de foi, n'est-ce pas, de partir à la suite de Moïse, de traverser la mer Rouge, le désert, et finalement la descendance de prendre seuil dans le pays promis. Eh bien, c'était, si vous voulez, une cérémonie funéraire dans un sens, et Jésus a repris cette cérémonie, et il l'a sortie de la Pâque, et il l'a placée là, dans l'Église. Et cette cérémonie va durer toujours, bien sûr, jusqu'au moment où nous le verrons face à face. Ce matin, je me posais la question à savoir, même avant, de ce quoi nous allions parler, et ce sujet m'est venu il y a déjà une semaine, et je pensais qu'il y a l'exemple le plus frappant que nous avons dans la parole de notre Seigneur Jésus, eh bien, c'est l'histoire de Joseph. Je pensais que ce matin, nous pourrions avoir quelques considérations dans le chapitre 37 de la Genèse et de voir un peu ce cher Joseph, comment il a vécu, quelle a été son histoire et quels ont été les indices du Seigneur Jésus dans l'exemple extraordinaire qui nous a été rapporté sur plusieurs chapitres par la plume de Moïse. N'est-ce pas? Ce qui est intéressant de voir, c'est que Moïse a eu un discernement prophétique en écrivant ces pages. Ce n'était pas un roman qu'il allait écrire, mais c'était bien plus que cela. C'était bien plus que l'histoire du peuple ou l'histoire des patriarches. C'était une révélation que l'Esprit de Dieu nous a donnée là, dans ce chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 5, ou même du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique bigarrée, et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous retrouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa, se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent davantage encore, à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Et ici encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Et dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien, et si le petit bétail va bien. tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne, et l'homme le questionna en disant « Qui cherches-tu » Il répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains, et il dit « Nous ne prenons pas la vie, pas sa vie. » Ruben ajouta « Ne répondez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leur chameau était chargé d'aromates, de baumes et de ladanum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage des trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, se retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ?» Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père en lui faisant dire « Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils. » Et Jacob la reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces, et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins, et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph donc en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Passage frappant. Et si on commence à pénétrer un peu l'idée de cette famille qui avait commencé d'une manière boiteuse, puisque ça a commencé par une tromperie de la part de Jethro, n'est-ce pas, dans le premier mariage de Jacob, nous rendons compte que cet esprit de tromperie continuait dans la vie de Jacob, passait à sa famille et passait même plus loin. Et il a fallu que l'Éternel purifie cette famille. Et nous connaissons bien l'histoire de Joseph et de ce qui s'est suivi de ce chapitre. Mais nous pouvons nous rendre compte que là, à cette époque, il n'y avait pas de tabernacle, il n'y avait pas d'autel où sacrifier le péché, pour le péché, mais l'Éternel faisait quand même la même chose au travers, par d'autres moyens. Et si la vie d'un homme ne pouvait pas racheter la vie d'un autre homme, disons, un animal pouvait racheter, ou disons, procurer le pardon à l'Israélite repentant, eh bien, Dieu s'est servi de Joseph pour purifier cette famille et pour amener ses frères à la repentance. Et je crois que nous avons là un exemple extraordinaire du Seigneur Jésus. C'est inutile de douter que Joseph ne ressentait pas le rejet de ses frères. C'était clair, déjà, la stérilité de Rachel avait produit beaucoup de rejet de la part de l'autre femme, ou disons des autres femmes, des servantes. Il y avait, à l'époque, n'est-ce pas, une attitude vis-à-vis de la fécondité qui était extrêmement forte. C'est-à-dire qu'une femme qui ne pouvait pas produire un enfant, eh bien, était considérée comme au niveau d'une servante, de quelqu'un de rejeté. Et Rachel en souffrait cruellement. Et un jour, elle attrape Jacob et elle lui dit, « Mais écoute, c'est un enfant ou ma vie, un fils ou ma vie. » Et elle a dit ça dans un cri de désespoir. Et c'était un cri de foi. Et l'Éternel entendit ce cri de foi et Joseph est né. Donc Joseph est un fils de la foi. Il n'est pas un fils, disons, d'un mariage tout simple. C'était un fils qui a été produit par une action particulière de l'Esprit et qui a rendu Rachel féconde et il est né. Et pour Joseph, c'est un des derniers fils qu'il a porté, qu'il a eu. Il en a eu un après Joseph de Rachel, c'est-à-dire Benjamin. Mais tous les autres étaient déjà nés et avaient grandi. Et alors, d'après ce texte, Joseph était très jeune, il ne devait pas avoir 20 ans. Et 17 ans. Et ce n'est pas sûr même que, c'est même presque certain que Benjamin n'était pas encore né. Parce que quand Benjamin est né, sa mère est morte de l'accouchement. Donc, il y avait une situation très difficile. Mais voilà, c'était aussi un premier-né, il ne faut pas l'oublier. Il y avait donc Ruben qui était premier-né chez Léa, suivi de Lévi, Judas, Judas, Lévi et je ne sais plus quel est le quatrième. Et puis, après, il y avait donc les fils des servantes qui comptaient la même chose dans la famille, de deux servantes, celle de Léa et celle de Rachel. Et puis enfin, il y a eu les enfants de Rachel. Or, les enfants de Rachel ont été traditionnellement rejetés par les autres tribus. Si vous vous souvenez, plus tard, dans le livre des juges, il y a eu un acte qui avait été fait par un prêtre qui était assez méprisable. C'est un Benjaminite. Et les 11 autres frères, les 11 autres tribus se sont vengés contre Benjamin et ils ont presque tué tous les hommes. Il y a eu toujours cette jalousie vis-à-vis de Joseph et vis-à-vis de Benjamin, parce qu'ils étaient de Rachel. Et Rachel avait été la favorite de Jacob. Et ça, le pardon n'avait jamais été accordé, même aux descendants pour lesquels ce n'était pas leur faute d'être nés dans cette tribu. Mais cela nous montre à quelle profondeur les racines d'amertume peuvent rester, de génération en génération en génération. Et je vous invite en première leçon ce matin, s'il y a des choses comme ça dans votre famille, qui sont des racines d'amertume, des préjugés, des choses qui restent depuis longtemps, qui affligent votre famille, eh bien, amenez-les devant le Seigneur, expliquez-les au Seigneur, recherchez sa face, recherchez sa sagesse, et soyez-en purifiés par le sang de la croix. Parce que c'est des choses qui peuvent vous immobiliser dans votre témoignage. Oh, que la grâce de Dieu vous accorde que de tout votre cœur, vous soyez libre de tous ces préjugés. Et songez-y, s'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir un préjugé, ça aurait pu être Joseph. Surtout que il ressentait cette haine contre lui et il n'avait rien fait que d'être né de sa maman, Rachel. Bon, l'histoire continue et voilà que ce garçon a un rêve. Et je peux bien imaginer que de raconter ce rêve à sa famille, ça a dû être quelque chose de très très lourd pour lui. n'est pas quelque chose qu'il a fait pour rehausser son ego ou pour dire, voyez hein, ce qui va arriver, voyez ce que j'ai rêvé, etc. C'était un rêve, il a senti que c'était le Seigneur qui parlait. Et comme la révélation était rare en ce temps-là, eh bien, il l'a dit dans la puissance que Dieu lui a donnée, la grâce que Dieu lui a donnée, en remettant à la grâce de Dieu les résultats, les conséquences de ce témoignage. Et là, nous voyons le premier exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lui, il est venu, il était la parole, et la parole était la vérité. Et c'était la lumière du monde. Et le monde n'a pas compris cette lumière du tout. En fait, ils l'ont rejeté. Vérité ou pas, ils ont rejeté le Seigneur. Mais il a été fidèle jusqu'au bout. Il a dit la vérité. Croyez-vous que, disant la vérité, il était inconscient des conséquences? Qu'il était inconscient de ce qui allait se passer? Oh non, il le savait très bien qu'il allait être rejeté, qu'il allait être crucifié. C'était déjà, il le savait. Il savait que c'était parce qu'il disait la vérité qu'il serait incompris. Remarquez qu'aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit la vérité, nous montre la vérité, et qu'on n'aime pas l'entendre, on agit exactement la même chose. Alors, c'est tellement important de développer un amour de la vérité. Et ce n'est pas notre chair qui développe un amour de la vérité. Non, notre chair, elle veut l'autre chose. Elle veut au contraire faire du théâtre. Elle aime tout ce qui est prétention. Elle aime tout ce qui est beau et bien. Tandis que la vérité, elle s'occupe de ce qui est là et de ce qui est de ce que Dieu voit et comment il le voit, soit bien, soit mal. Et il voit la chose. Et la vérité, c'est un fondement. Il y a dans le psaume 119 cette expression « Oh, que j'aime ta vérité !» N'est-ce pas? Eh bien, c'est un cri qui est nécessaire en nous. Aimer la vérité, c'est dur. C'est très dur. Parce que ça fait mal. La vérité est comme une épée à deux tranchants. Elle coupe à l'extérieur, mais elle coupe aussi à l'intérieur, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité, elle produit la lumière. Et la lumière produit aussi la conscience de la volonté de Dieu, là où elle est. La vérité est difficile à assimiler. Elle est dure parfois, mais elle est nécessaire. Et ça, c'était chez Joseph, dans son cœur. C'était un garçon qui, par la souffrance, avait compris que ça ne servait à rien de prétendre, mais qu'il fallait accepter sa place comme fils de Jacob et comme rejeté de ses frères. Et alors, il a dit la vérité. Ensuite, il a fait un deuxième songe. Remarquez, où maintenant le songe s'étend et où il y a la lune et les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles. Et ce soleil et cette lune, bien sûr, parlent de son père et de sa mère. Et tous vont se prosterner devant lui ou devant son étoile. Évidemment, ça n'a pas été très, très fort, hein, c'est pas très populaire comme rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les frères de Joseph, il n'y avait pas de discernement spirituel du tout. Ils n'avaient qu'une pensée en eux, c'était la haine de leur frère, la jalousie de leur frère. Et certainement, ils le rejetaient. Tandis que Jacob, il était différent. Lui, il s'est rendu compte de ces choses, et comme Marie, il gardait ces choses dans son cœur. Autre chose que nous remarquons chez Joseph, c'est que c'est cette attitude remarquable d'obéissance. Un jour, son père l'envoie aller voir ses frères, comment ils allaient et comment était le menu bétail. Est-ce que Jacob aurait eu des raisons de se soucier de ce menu bétail? Aurait-il eu des raisons de se soucier de ses frères, de ses autres fils? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand on se rappelle de Jacob, de ce qu'il avait fait avec Laban et le bétail de Laban, quand il avait nourri le bétail de certaines plantes qui produisaient des petits agneaux qui étaient achetés, et il pouvait enlever ces mêmes plantes de leur régime pour que les peaux soient sans tache, suivant comment le contrat avait été fait, il pouvait influencer la grandeur du troupeau. Il avait découvert ça. Et alors, bien sûr que Jacob s'était enrichi d'une manière peut-être qui n'était pas très qui n'était pas très honnête à certains égards. Et peut-être avait-il peur que ses fils fassent la même chose. Peut-être avait-il peur que ses fils, comme ils étaient très amers contre leurs frères, ils se retournent les uns contre les autres en amertume. Parce que c'est ce qui arrive souvent quand on a de l'amertume dans son cœur, c'est pas seulement envers son frère ou disons celui qui nous chicane au moment que on va avoir des sentiments difficiles ou pénibles ou durs, mais très souvent ce sont des sentiments qui se répercutent ailleurs. Et on voit parce que l'amertume souvent devient une attitude d'amertume vis-à-vis de tout le monde et de toutes choses. Et alors c'est peut-être là qu'est venu ce souci de Jacob d'aller voir si ses fils étaient encore ensemble, parce que pour lui l'unité de la famille était importante. Et il fallait qu'il gère tous ses caractères très difficiles. Et il devenait vieux, il n'avait plus tellement de force. Et pour lui, il voyait Joseph comme étant le chef idéal, parce que c'était un jeune homme qui disait la vérité. Il pouvait être absolument sûr que Joseph disait la vérité. Bon, alors Joseph est parti, et nous voyons là comment le père a envoyé son fils dans ce monde, sans aucune illusion de ce que le monde allait faire pour lui. Et c'est remarquable de voir comme Joseph répondit, me voici, me voici. Plusieurs hommes ont répondu, me voici. Esaïe a répondu, me voici à l'appel. Et d'autres encore. Abraham, etc., me voici. Eh bien, il y avait cette disposition chez Joseph qui avait compris qu'il était l'objet d'une grâce plus grande que celle de son père. Il avait pu transposer sa position de fils de son père à fils de Dieu. Et ça, c'est exceptionnel pour un jeune homme qui n'a même pas 20 ans. Mais il l'avait fait. Il se voyait comme sous la protection de Dieu et qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur de ses frères. Il n'avait pas besoin d'avoir peur du futur parce qu'il était avec Dieu. Et je voulais vous encourager ce matin, si vous avez ce sentiment d'abandon ou d'être seul ou d'avoir un futur incertain, eh bien, souvenez-vous qu'il ne nous laisse pas orphelins, il vient à nous. Dieu vient à nous. Quand son peuple était dans le désert et qu'il était sans ressources, il est venu, non seulement avec la manne et l'eau, mais il est venu personnellement dans la colonne de fumée et de feu et dans la présence du tabernacle. Il était là avec eux, il a marché avec eux, il a vu leur et entendu leurs souffrances. Tous les jours, il les a suivis. Il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il les amène dans le pays promis. Et ça a pris 40 ans. Donc c'est pas le péché d'Israël, leur incrédulité, leur détestation qui a empêché ou arrêté le Seigneur de répandre sur eux ses bénédictions journalières. Non, il a continué, il a pardonné, ils ont dû porter les conséquences, mais il a été avec eux jusqu'au bout du désert. Et ça c'était une leçon que les fils d'Israël avaient complètement oubliée. Pourquoi? Parce que des générations plus tard, et c'est bien sûr qu'on oublie 400 ans plus tard, 475 ans plus tard, on oublie quelles ont été les attitudes des personnes à l'époque, n'est-ce pas? Alors Joseph, ce récit probablement a été écrit à cette époque, et que les Israélites déjà avaient ces histoires, disons elles étaient fraîches, puisque c'est la plume de Moïse qui les ont écrites, mais ces histoires étaient là pour rappeler dans la tradition ce qui s'était passé. Et Joseph, donc, va vers ses frères. Intéressant de voir qu'il y a des expressions qu'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament et qui sont tellement semblables. Par exemple, quand au verset 18, il est dit ceci, « Ils le virent de loin ». Et Jésus, dans la parabole du père, du fils prodigue, il utilise exactement les mêmes mots au sujet du père, quand il le vit de loin. n'est-ce pas, quand il le vit de loin. Je pense que Jésus utilisait ces mêmes paroles ou ces mêmes bouts de phrases dans ces histoires pour permettre aux pharisiens de faire la correspondance avec ces récits du passé, n'est-ce pas, et ce récit en particulier, et de les associer avec ces hommes, avec ces frères de Jacob, ces fils de Jacob, et de le montrer à ces pharisiens qui écoutaient cette histoire du fils prodigue, de montrer leur manque de miséricorde. Alors, ils le virent de loin, et avant qu'ils soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. C'est très intéressant de lire dans les évangiles à quel point les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi complotèrent de faire mourir Jésus. Dans certains évangiles, ça vient dès le début, surtout chez Matthieu. Tandis que chez les autres, ça vient plus tard. Mais peu importe, le complot a eu lieu. C'était toute la chose maintenant, c'était comment attraper Jésus. Parce qu'il y avait tellement de puissance qui était, et de bénédiction qui se déployait au milieu du peuple d'Israël, que bien sûr c'était une chose très impopulaire à faire que d'arrêter Jésus. Enfin, voilà, il y avait quelqu'un qui aurait pu délivrer ce peuple, qui aurait pu changer le cœur de ce peuple, qui aurait pu en faire un peuple qui aurait une dimension nouvelle spirituellement et aussi conséquemment politiquement. Mais les pharisiens ne voulaient rien entendre de ça. Et alors, dans la même attitude, ils ont comploté de faire mourir Jésus. Et Joseph, même chose, ses frères ont comploté de le faire mourir. Intéressant de voir que il y a quand même eu un premier-né, Ruben, qui a essayé de le sauver. Bon, il l'a essayé peut-être par l'astuce de la chair, très certainement. Mais enfin, il avait quand même un bon cœur, parce qu'il voulait sauver ce jeune homme et le ramener à son père. Et la parole le relève. Et c'est important de voir que même alors que tous les autres frères étaient contre Jacob, contre Joseph, eh bien, Ruben ne l'était pas. Et ça, c'est très beau de le voir à ce point dans la parole de Dieu. Ensuite, Joseph n'a même pas le temps de dire quelque chose, qu'il est dépouillé, on lui enlève sa tunique bigarrée, probablement on se moque beaucoup de lui, et il le jette dans cette citerne qui n'avait point d'eau. N'est-ce pas là un type du cœur de ses frères de Joseph, n'est-ce pas? Des citernes qui sont sèches et qui n'ont pas d'eau. Aucune spiritualité, aucun amour, rien, aucun sentiment, aucune pitié. Et les choses continuent, ça n'allait pas le même jour pratiquement. Ils voient cette caravane d'Ismaélites qui viennent de Galad avec leurs chameaux. Et puis, Judas propose de vendre Joseph. Aussi remarquable de voir que le nom de Judas est le même que celui qui a trahi le Seigneur, n'est-ce pas? Judas, le même nom, qui veut dire louange. Hein? C'est assez extraordinaire. Et alors, ils ont des d'accord, ils n'ont rien dit à Ruben, et ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Et Joseph est parti avec ses Ismaélites. Bien entendu qu'il a fallu après tromper Jacob. Et je trouve que ce verset à la fin du chapitre est une scène qui est horrible et qui grince terriblement. Quand il dit tous ses fils se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Pouvez-vous imaginer comment ses fils se sentaient en essayant de consoler leur père? Ils devaient se regarder dans les yeux et se dire, c'est nous qui avons fait ça. Et voir cet homme secoué de sanglots, qui ne pouvait pas se consoler. Et chacun avait une peur horrible qu'il meure de chagrin. Parce que vous savez, mourir, c'est Le chagrin, c'est une chose qui arrive. Hein. Et alors, ils ont le part. Mais est-ce que vous croyez que ça a causé une repentance? Rien. Rien du tout. Ils ont couvert la chose, croyant que rien n'arriverait. Que maintenant, l'affaire de Joseph était enterrée. J'aimerais qu'on puisse regarder au psaume 102. Le psaume 102 nous donne une méditation d'une personne qui est abattue. Et ne croyez pas pour un instant que Joseph était dans cette citerne et qu'il s'est dit « Cool, je vais en Égypte. Ou on va me vendre, ou on va se débarrasser de moi, mais tout va bien. » Quand Joseph a été vendu comme esclave, on attelait l'esclave, on l'attachait à la selle du chameau et il devait marcher dans ses cailloux et ses sables brûlants et on ne ralentissait pas le chameau pour autant. Il fallait que l'esclave court. Et quand on lui donnait de l'eau à boire, c'était toujours trop, n'est-ce pas? Et puis au fur et à mesure qu'on approchait l'Égypte, il fallait quand même que l'esclave ne soit pas en trop mauvais état, sans fait, il ne cherchait pas un bon prix. Alors, il le nourrissait un petit peu mieux, il le nettoyait un petit peu mieux, et puis finalement, juste avant la vente, eh bien, on le faisait tout propre, on lui donnait un habit propre, et puis voilà, puis on tâchait d'en tirer le plus grand prix possible. Et ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque. On faisait la même chose ici aux États-Unis, dans la traite des esclaves. Et alors, voilà les champs, ou disons, ce qui se passe dans l'âme d'une personne qui se sent rejetée. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille. Le psaume 102, verset 3. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tous les jours, mes ennemis me déshonorent et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. Je mange de la cendre au lieu de pain. Je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta fureur et de ton indignation. Car tu m'as soulevé et jeté au loin, mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, et je me dessèche comme l'herbe. Eh bien, peut-être que Joseph n'a pas pensé ces paroles même, mais certainement les sentiments, il les a tous eus. Pourquoi? Parce que Joseph aimait son père. Et imaginez-vous quand il a vu ce que ses frères ont fait et voulaient faire, et la tromperie vis-à-vis de son père, le souci qu'il a eu pour lui et pour son père a dû être quelque chose d'écrasant. En plus de cela, il était tiré par ses Madianites en Égypte. Et c'est un bout, c'est 11 jours de chemin pour arriver en Égypte, par la voie la plus courte. Et c'est des routes qui sont brûlantes. Hein. Il est arrivé là-bas et on connaît la suite de là, il a été revendu. Notre Seigneur Jésus, lui, eh bien, il a quitté son père. Il a été envoyé, mandaté par son père pour aller chez les siens. Et les siens n'ont pas reçu. Mais, dit la parole à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité de devenir des enfants de Dieu. À savoir à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Tournons maintenant dans un autre passage. C'est dans Jean au chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fut fatigué du voyage et était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Chers amis, la trace de Joseph, elle était là. C'était le champ que Jacob avait donné à Joseph. Et nous nous rendons compte que lorsqu'il est allé chercher ses frères, il est d'abord allé à son champ. Il est allé à Sichar, ou à Sichem, comme c'était appelé à l'époque, près de son champ. Et là, il n'a pas trouvé ses frères. Ils étaient partis à Dothan. C'est une image frappante parce que Jésus va vers ce même champ, le champ de Joseph, et il ne trouve pas ses frères. Où sont ses frères? Ils sont ailleurs. Ils sont à Jérusalem, ils sont ailleurs, mais ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'ils trouvent là? Ils trouvent une femme samaritaine. Et cette samaritaine, elle était moitié juive, moitié d'une autre nation ou d'une autre souche. Les Samaritains étaient, si vous voulez, les fils et les filles de ces Juifs qui étaient restés en Israël après la transportation à Babylone. Et c'était, si vous voulez, les pauvres qui étaient restés pour maintenir le territoire, pour s'assurer que les vignes soient faites, les vergers soient tenus. Et c'était un édit du roi, n'est-ce pas, un édit de bon ordre, pour pas que, disons, il y ait des désastres économiques. Et c'était ça, ils avaient laissé ces gens, mais ils ne pouvaient pas s'enrichir, ils ne pouvaient pas posséder, ils devaient travailler comme des ouvriers. Et ces gens s'étaient multipliés, et quand les Juifs sont revenus de Babylone, ils n'ont pas reçu ses frères, leurs frères. Ils les ont considérés comme étant inférieurs. Je ne sais pas pourquoi, peut-être s'étaient-ils intermariés avec d'autres populations. Toujours est-il qu'ils n'étaient pas au niveau, au statut social que ces Juifs qui revenaient de Babylone voulaient. Et ces Samaritains étaient restés dans cette région depuis là. Donc ça faisait, depuis le retour de la transportation, ça faisait c'est à peu près 450 ans en tout cas, si même pas 500 ans. Donc c'était pas mal de temps. Toujours est-il que c'était là où était la portion de Joseph, dans ce champ. Et à cette citerne, une citerne qui appartenait à Jacob, qui avait été donnée à Joseph, eh bien, Jésus se trouve là. Et il trouve le symbole de son peuple. Et le symbole de ce peuple, c'était une femme qui, elle, avait eu 5 maris et qui vivait en concubinage avec un autre homme. Donc elle devait avoir un caractère assez difficile, puisque après 5 mariages, elle ne pouvait plus trouver de protection légale. Et en effet, on voit qu'elle parle à Jésus d'une manière assez effrontée, et que ce n'est pas une femme qui est soumise et qui montre beaucoup de caractère, ou du bon caractère. Mais Jésus lui parle, et il y a à ce moment-là quelque chose qui touche son cœur. Elle voit pour la première fois quelqu'un qui s'intéresse à elle pour elle-même, et non pas pour ce qu'il peut obtenir. Mais il l'approche sur un terrain d'égalité, c'est-à-dire qu'il lui dit « donne-moi à boire ». C'est exactement ce qu'elle allait faire, elle allait tirer de l'eau du puits, donc elle pouvait en tirer un petit peu plus pour lui. Elle voyait qu'il était fatigué. Mais elle voyait aussi qu'il était juif, et elle s'est posée immédiatement la question « comment un juif peut demander à moi, une samaritaine, de lui donner à boire ?» Et ça a vraiment atteint cette femme dans son corps. Et de là, la conversation a continué. Et Jésus a atteint cette femme par cette série de questions et de réactions à ses réponses qui, finalement, l'ont amenée à vouloir cette eau de la vie pour qu'elle ne puisse plus jamais venir à ce puits. N'est-ce pas? C'était une eau symbolique, mais elle ne comprenait pas. Et finalement, Jésus lui a dit, voilà. Voilà ce qui est de ta vie. Et cette femme a été bouleversée. Bouleversée. Et finalement, elle a vu ce Messie dans le Seigneur. Maintenant, on peut se dire, bon, ben, qui sait, ça n'aurait pas été très compliqué d'aller au village pour une personne, de s'enquérir au sujet de cette femme, de trouver qui elle était, son passé, etc. Il y avait 10 000 personnes pour le dire. Ça, c'était pas très compliqué. En plus, ça aurait pu être tout un... Non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait beaucoup plus que cela. Et quand le Seigneur a atteint le cœur de cette femme, il avait bien plus qu'elle dans son idée. Il avait toute cette région. Savez-vous que le grand réveil grand réveil évangélique qui s'est fait plus tard, quelques mois plus tard, ou peut-être une ou deux années plus tard, sous la direction de Philippe, n'est-ce pas, le diacre Philippe, se passait juste dans cette région de Sichem. C'est là où il y a eu une préparation évangélique énorme faite par le Seigneur lui-même. Donc ces gens connaissaient Jésus, et ils le connaissaient d'une manière très favorable, et probablement que cette personne avait déjà fait un travail de fondation qui était immense. Cette femme a été typifiée Israël à l'époque. Un peuple rejeté, un peuple qui ne demandait qu'à être châtié par les Romains. Mais Jésus a eu grâce. Jésus a eu grâce. Alors, nous voulons remercier le Seigneur aujourd'hui parce que il a grâce. Il a grâce envers nous. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe ce que vous n'avez pas fait dans votre vie, sachez que le Seigneur vous aime. Mais que vous voulez le suivre, ce sera le chemin de Joseph. Vous voulez l'honorer, vous voulez le glorifier, ce ne sera pas votre gloire, ce sera la sienne. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Il est Dieu. Alors, je vous encourage dans votre marche. Ne désespérez jamais. Le chemin est des fois lourd, des fois mystérieux, plein d'insécurité, mais vous savez, marcher avec Christ, c'est marcher en sûreté. Et c'est marcher avec un but. Quand Joseph est parti en Égypte, il savait que ce rêve allait se passer. Il y avait un but. Et aussi loin qu'il semblait du but, ça allait se passer. Il n'y avait pas d'hésitation. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui avait parlé deux fois. Alors, je vais vous encourager pendant cette semaine, écoutez la voix de l'Éternel. Il va vous parler. Et il va vous parler à votre conscience. Sachons purifier notre cœur de toute amertume, car l'amertume nous détruit entièrement. Sachons au contraire avoir un cœur rempli de reconnaissance pour toutes choses, même celles qui sont difficiles à accepter, surtout celles qui sont difficiles à accepter, parce que ces choses-là, elles sont pour notre gloire et pour la gloire de notre Seigneur par nous. Eh bien, prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour les leçons que tu nous as données ce matin. Nous voulons te remercier pour cet exemple extraordinaire de Joseph. On veut capturer nos cœurs aussi, capter nos cœurs à cet amour, à cette protection que tu mets sur nous. Ô Dieu Père, nous te supplions de prendre nos cœurs entièrement, de les occuper, de les habiter, et veuille nous aider à communiquer avec toi. Veuille nous aider à assimiler cette vérité si importante qui est là pour nos cœurs. Et veuille, comme cette femme de Sichar, Seigneur, veuille nous remplir, Seigneur, de ta vérité et de ta joie. Et cela, nous te demandons en te louant dans le bon nom de Jésus. Amen.